France Musique. Musicopolis. Mai 1914, Paris. Au lendemain de la soirée du 15 mai 1914, on peut lire un court article du musicologue Adolphe Beauchaud dans L'Écho de Paris. À l'Opéra Comique, Marouf Savetier du Caire, livret de M. Lucien Nepoty, musique de M. Henri Rabaud. Tout de suite, reconnaissons à cette œuvre nouvelle une qualité qui se fait de plus en plus rare dans le royaume des sons. Cette œuvre est agréable. Le public, étonné mais charmé, a témoigné de sa reconnaissance en acclamant Marouf. Cette aimable turquerie, où le librettiste utilise avec légèreté de touche les travaux de M. Mardrus, a reçu de M. Henri Rabaud la musique la mieux appropriée. Sa caractéristique, redisons-le, est l'agrément. Voilà une qualité assez rare pour que nul ne la dédaigne, même parmi les plus délicats. Par ailleurs, le public ne demandera qu'à prendre plaisir à une musique qui fait plaisir.
Il est des musulmans. Délecte, t'épouse à la chair beurrée. Oh, ces épouses, la pire et leur beauté comme l'eau des étangs.
Un sujet oriental, poursuit l'article de l'Écho de Paris, pouvait entraîner le musicien à un orientalisme exagéré. Après la musique russe, et surtout après la musique de ballet russe, après la vogue des gammes par tons entiers et des modes inusités, les compositeurs ont de l'orientalisme plein les mains. Monsieur Rabaud sut en mettre avec tact. Et il le mit toujours au bon endroit. Il sut être pittoresque au moment même où sa pièce lui demandait de l'être. Et il sut ne pas l'être trop. C'est un rien, dira-t-on. À la vérité, il se pourrait que tout le succès musical de Marouf tinte à cette discrétion. Car ainsi, sans qu'on ait le loisir de s'en lasser, toute l'œuvre baigne dans la charmante atmosphère d'un Orient fantaisiste où l'auditeur français peut rêver sans que rien ne le gêne.
Oh, le bonheur de ceux dans la ville du Caire, ayant tant de blancheur.
Dans l'article de l'Écho de Paris, tout est dit de ce qui va faire le succès de Marouf Savetier du Caire. Puisqu'en effet, même si l'ouvrage est un peu oublié aujourd'hui, quoique l'Opéra Comique en ait réalisé une nouvelle production en 2013, il a eu un succès tout à fait extraordinaire en 1914. Succès qui repose sur les deux éléments indispensables du spectacle d'opéra, il réjouit à la fois les yeux et les oreilles. Les yeux, grâce à son sujet, un conte inspiré des Mille et Une Nuits, dont la nouvelle traduction du docteur Mardrus est parue récemment, et la musique, grâce à ce délicat équilibre entre musique française et éléments orientalistes.
Je dois subir Allah.
mélange de poids et de goudron. Un fléau sur mes yeux, un emplâtre insupportable sur mon cœur de sabotier.
Dès la première scène de Marouf, le héros Marouf, savetier au Caire, a révélé le drame de sa vie. Il a épousé une calamiteuse dont la colère éternelle a noirci sa vie. Avant la fin du premier acte, son épouse va réussir à le faire lourdement bastonner. Ce sera la dernière fois. Marouf se sauve en s'embarquant sur une felouque. Au début du deuxième acte, le pauvre homme a fait naufrage et il se retrouve à Kaïtane. Il a la chance d'être repêché par un ami d'enfance, Ali, qui lui conseille de se faire passer pour un riche marchand. Marouf joue le jeu et il invente même une histoire de caravane qui doit arriver bientôt, chargée de sa fortune. C'est l'air le plus célèbre de l'opéra, moult fois enregistré.
À travers le désert, mille chameaux chargés d'étoffes marchent sous le bateau de mes caravaniers. Des paniers sont remplis d'argent et de joyaux. Des caisses pleines de poignards et de sabres damasquinés. 1400 mulets avec leurs muletiers portent les diamants, les rubis, les saphirs. Malik, beau comme des lunes, sont au nombre de mille. Montés sur des chevaux superbes, couverts d'armes étincelantes, ils escortent ma caravane.
Revenons un peu sur l'orientalisme. Nous sommes en 1914. Voici juste 10 ans qu'est parue une nouvelle traduction des Mille et une nuits due au docteur Mardrus, une version très colorée qui accentue le caractère érotique, exotique et le faste des textes. Une version qui a fait date dans le paysage intellectuel français. Bientôt, la mode suit le mouvement. Par exemple, celle du couturier Paul Poiret. Puis en 1910, c'est le choc. Lors de la deuxième saison des ballets russes de Diaghilev, les Parisiens découvrent le Scheherazade, chorégraphié par Michel Fokine. Sans réel rapport avec l'héroïne des Mille et Une Nuits, l'histoire met en scène de grands tableaux, aussi bien d'orgies que de massacres. Désir, mort, barbarie, tout cela dans des décors de Léon Bakst aux couleurs crues qui changent des demi-teintes habituelles des décors de l'opéra. Ce harem persan de Scheherazade, nous dit un contemporain, installa jusqu'en 1914 la Perse à Paris. Cette influence persane, on la reconnaît aussi bien chez les artistes et les couturières, les tapissiers et les poètes, les parfumeurs et les chroniqueurs, les modistes et les confiseurs, les fleuristes et les coiffeurs. Et il ajoute, les thés, les restaurants, les halls d'hôtels, les cabines de paquebots, les vitrines des grands magasins, jusqu'aux inventaires des marchands forains, étaient autant d'invitations à se croire transporté à Bagdad ou à Ispahan. La mode orientale s'est donc installée à Paris. Les arts visuels sont imprégnés de Mille et Une Nuits. En musique, en revanche, l'exotisme français est plutôt espagnol ou encore extrême-oriental. Pour ce qui est d'un orientalisme de Proche-Orient, les exemples qui viennent à l'esprit sont d'abord « Le désert » de Félicien David, mais qui remonte déjà à 70 ans et qui fait figure de vieille baderne. Ou encore les diverses pièces arabisantes de Camille Saint-Saëns, dont l'indéboulonnable bacchanal de Samson et Dalila. Avec le temps, s'est établie une sorte de tonalité arabe dans la musique française, à base de modes et d'intervalles tenus pour représentatifs de cette culture, et qu'on va retrouver dans Marouf de Rabot. Dans le journal Comédia, Louis Laloy note que la musique de cet opéra est orientale, certes, mais à sa façon qui n'est pas celle des Russes, car la fraîcheur ici n'exclut pas la discrétion ni l'harmonie. L'Orient, pour tous les musiciens, n'a jamais été qu'un prétexte à affirmer leur pensée personnelle. La musique de l'Orient véritable ne ressemble pas plus à celle de Balakirev ou de Rimsky-Korsakov qu'à celle de M. Rabot. Si notre auteur lui emprunte quelques intervalles chromatiques ou quelques rythmes persistants, ce ne sont là, pour lui, que des données qu'il traite à sa manière, et c'est bien l'Orient qu'il nous montre, mais interprété et transposé, un Orient de rêve, autrement tendre et captivant que celui de la géographie. C'est l'ami de Rabaud, Lucien Nepoty, qui s'est chargé d'écrire le livret de Marouf. Nepoty a trouvé dans la nouvelle traduction des Mille et une nuits du docteur Mardrus cette histoire que Scheherazade raconte à son sultan le 960e soir. Nepoty et Rabaud ont déjà collaboré quelques années auparavant, en 1908, lorsque Rabaud a composé la musique d'un drame lyrique de Nepoty créé aux arènes de Béziers. Ils s'entendent bien, ils sont sur la même longueur d'onde. Le librettiste sait, par ses mots, susciter la musique du compositeur. Ce qui plaît tout de suite aux Parisiens lors de la création de Marouf d'Henri Rabaud le 15 mai 1914, c'est l'exotisme de Bonaloi. Rien d'exagéré, rien d'outré, tout dans la mesure, parfois gentiment parodique, et bien sûr une musique plaisante et agréable tout du long de la partition. On n'aurait pourtant pas parié sur ce plaisir facilement accessible en jugeant d'après les premières œuvres de Rabaud et d'après son caractère. Max Dolon, son ami compositeur depuis leurs années de conservatoire, parle de la sévérité puritaine de ce grand jeune homme de 19 ans, maigre et barbu, aux allures sérieuses et distantes, et d'une grande culture littéraire et philosophique. Selon Dolon, Rabaud éprouvait envers la musique de Massenet, dont il était l'élève, une sorte de répugnance morale et physique de clergyman devant tant de tendre coquetterie et de charme caressant. C'est en Italie, où il séjourne grâce à son prix de Rome, qu'il commence à changer. L'Italie, écrit Max Dolon, touchait en lui des cordes que le pavé parisien n'avait pu faire vibrer. Les sensations s'éveillaient chez ce jeune homme en qui avait prédominé l'intellectualité. La fantaisie s'offrait pour la première fois à lui grâce à une existence libre contrastant avec celle réglée et austère qu'il avait menée dans sa famille. Au contact de camarades frais et moulus de l'école des Beaux-Arts, aux allures bohèmes si différentes des siennes, une détente s'opérait en lui. Il devenait jeune, enfin. après la générale de Marouf, les côtiers du journal Comédia rendent compte de ce qu'on voyait non plus sur la scène, mais dans la salle de l'Opéra Comique. Voici le maestro Ruhlmann, dont la barbe rouge est hérissée de doubles croches. On le complimente à tour de bras, car il a piloté comme un maître le bondissant vaisseau de l'orchestre. Je saisis au passage cette appréciation. C'est bien, c'est très bien, et d'une limpidité. J'aperçois là-bas le feutre de Gustave Charpentier, la cape de Claude Debussy. Messieurs Messager et Ducas sont là également. Avez-vous vu dans une loge, monsieur Camille Saint-Saëns ? Le maître a voulu applaudir monsieur Henri Rabaud. Deux yeux phosphorescents luisent dans l'ombre d'une baignoire. Parbleu, c'est le tigre ! C'est monsieur Georges Clémenceau lui-même que nous avons l'honneur de posséder cet après-midi entre ces murs subventionnés. La toute fin de Marouf, savetier du Caire, de Henri Rabaud, dans la version de l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire dirigé par Jésus Etcheverry, avec notamment Anne-Marie Blanza qui chantait La Princesse et Michel Lecoq qui était Marouf. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Stéphane Desmond pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.